Salut à toutes, salut à tous, vous êtes bien sur le 895 Radio Dio, la radio du chaos. Il est midi, vous êtes en train d'écouter l'émission du numéro 0, l'émission pour une bonne hygiène buccale. Ici on vous propose de desserrer les dents, ouvrir sa bouche et surtout de ne pas garder la langue dans sa poche. Le numéro 0, qu'est-ce donc ? C'est un média alternatif et participatif sur la région stéphanoise. Il existe sous plusieurs formes, un site internet où tout le monde peut publier des articles. L'adresse c'est le numéro 0 tout attaché sans accent point l'autre tout attaché point net. Le numéro 0 point l'autre point net. Il y a aussi une version papier gratuite qu'on peut trouver de temps en temps dans certains lieux. Et donc l'émission radio qu'on peut réécouter aussi aujourd'hui même entre 17 et 18 heures. L'émission du numéro 0, c'est des brèves. Des infos en vrac sur Saint-Thé et ses environs, du scrognogna et du blabla. Pour tout vous dire, on prétend pas à l'objectivité, nous préférons prendre parti et même pire. Nous avons choisi le camp, celui des barricades. Nous espérons aussi utiliser le micro pour rencontrer des gens qui luttent. Alors, aujourd'hui, au sommaire, en parlant de gens qui luttent, vous l'aurez peut-être remarqué, mais les deux dernières semaines, les postiers, les lycéens, les profs, les cheminots se sont mobilisés sous forme de grève et de manifestations. Nous avons rencontré des postiers, nous avons rencontré les cheminots, nous leur avons posé des questions et on est revenu en studio avec tout ça. On va commencer par ça et puis ça va bien nous prendre une bonne partie de l'émission et pour finir, on fera quelques annonces et quelques brèves. Voilà, c'est parti pour la lecture.
Alors le 22 novembre dernier à Saint-Étienne, il y avait une manif qui est partie de la Grand Poste et qui a remonté la Grand Rue en sens inverse pour arriver jusqu'à la préfecture. Cette manif, c'était une manif de postiers, mais pas que, de gens qui bossent à la poste et d'usagers et de gens qui passaient par là aussi. Le 22 novembre, c'était la journée d'action contre la privatisation de la poste. Et du coup, je suis allé fouiner un peu là-bas dans l'idée, du coup, moi, d'essayer de comprendre un petit peu ce que c'était cette privatisation de la poste, ce que ça allait changer pour les usagers et pour les gens qui y travaillent. J'avoue qu'avant ça, j'y comprenais pas grand-chose, parce que c'est toujours quand on est de l'extérieur, on a toujours l'impression dans les luttes syndicales un petit peu que les gens ils se battent pour leur bout de pain et on comprend jamais trop où ça mène. C'est des trucs assez précis, assez techniques de logique de travail. Du coup, moi, ne travaillant pas, j'avoue, je comprenais pas grand chose, même au lieu de syndicat en elle-même. Et j'ai rencontré du coup deux personnes, Laurent et Raoul, avec qui on a bien parlé. On a fini dans un bar. La discussion était hyper intéressante. On est passé sur plein de sujets. Et voilà, du coup, je leur ai demandé de m'expliquer comment ça se passait la privatisation à la poste. Et un petit peu ce qui s'y passait, et un petit peu ce que c'était les luttes syndicales, et voilà. Et pour illustrer ça, du coup, on va écouter l'interview montée de Laurent et Raoul.
Moi, je sais pas, c'est important d'être dans la rue, je veux dire, on s'est caillé les meules tout à l'heure pour parler stéphanois. Vraiment, je l'ai dire, mais c'est important d'être dans la rue, d'occuper le panneau, quoi. Comme ils disent les Gougoriev dans une chanson, ces rues elles sont panneuses.
D'abord, on va peut-être rappeler ce que c'est qu'un service public. C'est quand même la chose publique qui est donnée à tout le monde. C'est-à-dire c'est le même service qui est donné à tout le monde.
En fait, c'est-à-dire péréquation tarifaire. C'est-à-dire que ça coûte le même prix.
Si on va livrer quelqu'un qui habite dans un gouffre, et ben ça coûtera le même prix que celui qui a
celui
le
qui
palier
en centre-ville.
Qui a le palier sur le centre-ville. Donc voilà, ce qui est une grosse différence avec le privé qui ne cherche que le profit.
Bah dans le colis,
et,
on le voit.
Dans le colis, la concurrence s'exerce dans les villes, pas dans le rural. Tout ce qui ne rapporte pas, le privé y va pas. Donc voilà, on nous met en concurrence.
Ou alors ils y vont une fois par semaine.
Nous on est des.
Si t'attends un paquet, ben tu vas l'attendre, tu peux l'attendre pendant 15 jours. Si le mec n'a pas 50 paquets pour que ça soit rentable pour lui de déplacer un véhicule pour aller à Burdignes, au-dessus de Bourg-Argentine, je veux dire qu'il y a un bled perdu de la Loire, et ben le mec il attendra 3 semaines, je veux dire, d'avoir 50 paquets. Quoi. Et toi, tu seras à Burdignes, tu auras commandé ton paquet sur internet, merveilleux, je veux dire, internet, la communication moderne, et ben t'attendras ton paquet pendant 3 semaines, alors que le mec te dit qu'il va te le livrer en 48 heures. Aujourd'hui, la poste, elle le fait en 48 heures. Elle va déplacer une voiture, même s'il y a deux paquets dedans. Donc forcément, c'est pas rentable.
Aujourd'hui, pour transporter vos plis et vos colis, il y a une solution plus rapide que la route, le train ou même l'avion. Cette solution, c'est Long Canot.
Ce qu'il faut dire, c'est que les gens croient toujours que l'impôt paye les fonctionnaires, je veux dire. Ce qui est une fausse idée, ce qui est faux.
Quoi, ce qui n'est pas le cas à la Poste.
Bah, ni à la Poste, ni à la SNCF, ni à l'EDF, ni à France Télécom.
Ce sont des administrations qui
s'autogéraient, quoi, je veux dire.
Et dans lesquelles on n'a pas hésité à venir piocher dans leur budget, à savoir que la Poste a payé les retraites des agriculteurs, par exemple. Hein. Sans compter le nombre de fois lorsqu'on était une administration où les politiques ont pioché dedans pour telle ou telle raison. Entre autres,
c'est celle-là, la privatisation, le gros du truc. Moi, tu me demandes la privatisation, pourquoi ils veulent privatiser? Parce que c'est un gros gâteau. Quoi. C'est un gros gâteau à se partager.
Qui pour donner à leurs amis.
C'est là, et vous avez une idée un peu de qui c'est qui louche dessus, par exemple?
Des actionnaires.
Oui, bah t'as Calberson, enfin je veux dire, dans les colis c'est déjà fait. Bon, ce qu'il faut savoir aussi c'est que la Poste est déjà à 75% privé, quoi.
Alors c'est quelle partie du coup sont privés?
Le colis est privé, quoi, par exemple.
Mais on a un statut public, on a un fonctionnement qui est privé, qui est mis en concurrence.
Oui, mais qui est mis en concurrence. Il n'y a plus de monopole d'État, je veux dire. Ce qu'on appelle le service public, c'était ce qu'il y avait en monopole d'État. Aujourd'hui, il ne reste plus à la Poste que la lettre de moins de 50 grammes. Tout le reste des produits de la Poste, que ce soit la banque, donc maintenant ce qu'ils appellent la banque postale, donc ce qu'appellent les guichets de la Poste, le courrier et les colis, c'est tout en concurrence. Il reste le courrier vraiment ménage, ce qu'on appelle le courrier ménage,
en 50 grammes. Quoi.
Chez nous, vos lattes sont toujours bien traitées. On est du monde bien organisé. C'est pour vous.
Est-ce que vous pouvez expliquer du coup cette différence entre les contrats à droit
privé et les contrats à droit public?
Le contrat de fonctionnaire.
Ben voilà, le fonctionnaire.
C'est juste un statut. Quoi.
C'est un statut. Les contrats de droit privé à la Poste, bon, maintenant, il faut savoir que t'as 50% de personnel d'employés de la Poste qui sont sous contrat privé, c'est-à-dire qu'ils sont comme n'importe quel
salarié en usine. C'est la même chose.
Dans Auchan, c'est la même chose. Donc il n'y a aucune garantie d'emploi. C'est-à-dire que si la Poste décide par exemple de fermer le centre de tri de Saint-Etienne et de monter un centre de tri à Lyon plutôt qu'à Saint-Etienne, parce que pour elle, ça sera un gain de productivité, on ne parle que de ça aujourd'hui, des gains de productivité, et ben, tout le personnel contractuel se retrouvera au chômage.
Et les fonctionnaires, ils sont obligés de les
reclasser. Les fonctionnaires, ils les reclassent. Voilà, c'est la grosse différence.
Ils
ne
peuvent pas les virer comme ils veulent. Ils sont obligés de les garder.
Il y a eu des rachats de statuts à France Télécom.
De plus en plus maintenant, mais ils essayent de plus en plus. Mais bon, pour le moment,
vous êtes encore protégés. C'est des contrats protégés, la fonction publique. Et les contrats de droit privé, c'est des contrats normaux. Et là, le statut cohabite à la Poste.
Un fonctionnaire est beaucoup moins malléable.
Voilà.
Donc voilà, aujourd'hui, ça déplaît beaucoup à notre direction.
Ah 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 ah
pas se leurrer.
Avec un privé,
je veux dire, et nous, moi qui suis privé, je veux dire, je le ressens. On le ressent beaucoup plus tout, que les fonctionnaires. Tu... Attends, on paye pas tout. Non,
si, demande.
Moi qui suis syndicaliste, je veux dire, je me suis fait démonter parce qu'on est noté, tu vois, comme les fonctionnaires. Et ça joue sur nos chances de promotion, quoi, je veux dire. C'est pas sur le boulot, comme juge, c'est sur ton fait de ton appartenance syndicale, je veux dire.
C'est la lutte finale.
Donc lors d'une réunion qu'on appelle les comités d'hygiène et de sécurité au travail, donc la direction avait élaboré un plan de licenciement, en gros de licenciement, un plan social sur le centre de tri de Bordeaux. Les mecs devaient être 300, il en restait 130. Quoi. Donc il y avait 170 mecs qui passaient à la trappe. Donc bon, les mecs se sont un peu énervés, ils ont plus ou moins pris en otage la direction,
okay, quoi.
Mais sans violence, les mecs ont eu à manger, ont eu le droit de téléphoner, et justement ils ont eu le droit de téléphoner, et ils ont appelé la direction, qui après a prévenu le GIGN, qui est intervenu dans le centre de tri de Bordeaux, pour balayer ces terroristes de syndicalistes. Et donc les mecs ont été condamnés à des lourdes peines. Quoi,
c'était pas l'ultra-gauche cette fois-ci.
C'était
la méga-gauche.
Le contractuel, il y avait...
Ou la giga-gauche.
Il y avait le contractuel, un membre de la CGT, je veux dire, notamment, qui était contractuel, qui lui s'est fait lourder.
Et ils ont pris quoi du coup, les gens
Et les autres, ils avaient pris 3 mois de mise à pied, hein, si je me rappelle bien.
Voilà. Et, le grand change de service, on suspend.
À Bordeaux, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que... Il y a eu justement un mec qui produisait du Bordeaux et qui a vendu des bouteilles de Bordeaux dans toute la France pour payer le procès, la défense du procès des mecs. Il y a quand même de la solidarité aussi.
Est-ce qu'il y a un service minimum qui est mis en place à la poste? Un truc qui est obligatoire ou pas? Comment ça se passe?
Normalement, il y a la réquisition existe à la poste. Il faut que ça soit décidé par le préfet. Je veux dire. Mais ça existe dans les faits parce que les cadres, les mecs sont formatés. Quoi, je veux dire. Si tu veux rester cadre, si tu veux pas être emmerdé, si tu veux pas être mal noté, tu vois, enfin, je veux dire, mal vu, être mis dans un placard. Quoi. Donc le mec le fait, mais il le fait de lui-même. Hein, je veux dire, il n'y a pas de réquisition véritable. Quoi. La réquisition véritable, il faut que tu reçoives une lettre recommandée chez toi pour un fonctionnaire. Hein, je parle. Nous, les contractuels, ils peuvent même pas. Le privé, ils ne peuvent pas nous réquisitionner. On pourrait même se permettre de faire une heure de grève si on voulait.
Pourtant, il y a des chefs de...
Qui
réquisitionnent et...
Mais ça, c'est eux qui le font de leur propre chef. C'est que les mecs, ils ont peur. C'est qu'on est dans une société où la logique de peur, elle est omniprésente, je veux dire. Les mecs, ils ont peur de perdre leur travail, ils ont des crédits sur le dos, ils ont... Je veux dire, on les a
poussés, quoi. Pas bien changé depuis la civilisation romaine, quoi.
Les paysans hommes, la grande partie des travailleurs, la terre n'appartient qu'aux hommes, la rire
ira, périra ailleurs. Ouais, mais tu vois, moi, ce que je voudrais dire, justement, sur notre société aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on a des moyens de communication énormes, c'est-à-dire que ça soit Internet, que ça soit la radio, la télé, et qu'est-ce qu'on fait? On se replie sur nous-mêmes. On se replie sur nous-mêmes, les gens restent entre eux, égoïstes, je veux dire, hyper égoïstes. La société devient de plus en plus égoïste.
Cette solution, c'est long canon.
Feu. Voilà, donc, voilà. Ça craint la poste, hein. Ça craint la poste.
Alors moi je voulais dire plein de petits trucs, repréciser pas mal de petites choses après du coup tout ce qu'ils nous ont dit. Déjà je voulais juste dire comme ça là pour l'anecdote que un des deux bons gars qui nous parle, Raoul, qui bosse dans la branche colis, en ce moment il se fait mettre la pression par sa direction. Et voilà, ils essaient un peu de le pousser à bout, notamment parce que c'est un militant syndicaliste. Du coup, c'est pas beau. Je voulais, en errant un peu sur le net, j'ai vu qu'au conseil municipal du 3 novembre, le conseil municipal s'est prononcé pour le maintien et le développement du service public de la Poste et contre le projet de privatisation et ont demandé au gouvernement de renoncer définitivement à son projet. Je sais pas trop ce qu'on peut en faire de cette info, moi ça me fait bien rigoler personnellement parce que je trouve ça un peu facile alors que la plupart des cantines de la ville sont servies par des bureaux privés. Mais bon, ça peut toujours servir ce genre d'info et ça peut toujours servir dans le rapport de force quoi. Après, je voulais rappeler quand même que la privatisation, elle ne remontait pas d'hier et que c'était pas que la faute du gros méchant Sarkozy, que c'était les gouvernements socialistes qui avaient largement amorcé le processus, que le processus de privatisation, il a commencé en 88 avec la mission Prévost, qui a abouti à la réforme en 91, la réforme de la Poste, et cette réforme de la Poste, en gros, elle a abouti à la séparation entre la Poste et France Télécom en deux entreprises publiques, industrielles et commerciales. On est bien dans la logique du divisé pour mieux régner et on est bien dans la logique aussi du divisé pour mieux privatiser. Après, en 93, toujours en 91, ça va être l'apparition aussi à la Poste de ce dont il parle là dans l'interview, c'est-à-dire des contrats de droit privé. C'est-à-dire que la Poste va commencer à embaucher des gens avec des contrats de droit privé, c'est-à-dire des contrats où en gros c'est la perte de la sécurité de l'emploi et tout ça quoi. Du coup, moi je voulais faire une petite anecdote par rapport à ça, je trouve qu'elle est assez significative par rapport au contrat de droit privé, c'est que, je sais pas si c'est récemment, mais en gros dans ces dernières années, la Poste elle a été traînée au prud'homme parce qu'elle avait fait à une même personne plus de 150 CDD consécutifs. Du coup je trouve que ça montre bien ce que c'est la flexibilité, l'intérêt de faire des contrats de droit privé et voilà ce que c'est l'insécurité de l'emploi. Après, c'est en 93 que la Poste elle a été découpée en branches et je voulais le souligner parce que encore une fois, c'est par ce genre de mesure que on arrive à une sorte de privatisation progressive où en gros, on divise en plusieurs branches, on met les gens un petit peu de côté, on les met dans des secteurs différents et puis après branche par branche, secteur par secteur, on va privatiser. Du coup, en 93, la Poste, elle est divisée en 4 branches, le courrier, le grand public, les services financiers, les colis, services techniques. Et par exemple, actuellement, moi, de ce que j'ai bien compris, la branche du colis, elle est entièrement privatisée. Non, elle n'est pas entièrement privatisée, elle est partiellement privatisée. Les services financiers, c'est entièrement privatisé. En gros, il ne reste plus que la lettre de... Du coup, on est toujours. Je voulais souligner ça parce que moi, je trouve ça assez significatif du coup des logiques de privatisation. Que c'est toujours cette logique du coup de diviser un peu pour mieux privatiser, mettre les gens chacun dans leur coin, les individualiser et tout ça quoi. Après.
Ah, excuse-moi, je voudrais dire qu'on verra que c'est exactement la même chose à la SNCF. Voilà, je voulais faire le lien.
Après, je voulais rappeler aussi que privatisation, ça rime avec
piège à con,
répression, et du coup un petit peu une nouvelle ambiance dans le travail, quoi. Et un truc qui est assez significatif, c'est toute la répression qui s'est abattue ces dernières années sur tous les militants à la Poste. Alors j'ai trouvé plein d'exemples, notamment par exemple à Bordeaux-Bègle où 14 militants CGT Sud CNT sont poursuivis au pénal alors qu'ils ont déjà été mis à pied et mutés disciplinaires et certains même licenciés. À Albi, un militant CGT, suite à ses recours successifs au prud'homme, il se fait mettre la pression par les flics. À Marseille, c'est Serge Reynaud, un militant CNT qui a été mis à pied 2 ans sans salaire, clairement pour ses appartenances syndicales. À Briançon, Jean-Claude Blais, un facteur militant de CGT, il a pris 6 mois de mise à pied. Et à Saint-Genis-Laval, du coup plus localement, Brigitte Guignon, une militante de CNT, se fait mettre la pression et ben, en ce moment est menacée de sanctions, quoi. Du coup, voilà, pour insister ce truc, voilà, quand on rentre dans le monde du privé, on rentre dans la flexibilité, on rentre chez les nazis un petit peu et on rentre un petit peu dans cette logique du travail sans pitié, quoi. Après, en fouinant sur le net, des trucs que j'ai trouvés pour les incultes, parce que moi j'étais un inculte avant ça, sur un petit peu la Poste et les réformes de travail et tout ça, j'ai vu quelques trucs un peu aberrants, que notamment en 2005, il y a la loi de la régulation postale. Elle a décrété que la représentante du personnel ne se ferait plus par les délégués du personnel ni par les CE. En gros, bye bye les délégués syndicaux. Du coup, on est toujours dans cette logique genre sans pitié, quoi. Et on fait tout pour pas que les gens ils gueulent contre la privatisation. Et un autre truc, moi, qui m'a mis sur le cul, c'est en 2006, il y a eu un accord interne à la Poste signé par la CFDT, FO, la CFTC et l'UNSA, qui a supprimé toute expression des syndicats dits non représentatifs. Du coup, c'est beau ça aussi, hein. C'est bien, bien joli. Voilà, en fait, tout ça, c'est pour illustrer en gros comment en gros, toute cette logique de privatisation, c'est quand même une grosse bataille idéologique. C'est le libéralisme, un peu, comme il le souligne là, nos deux camarades qui bossent au Poste. C'est l'entrée dans une ère de productivité, rentabilité, avec des valeurs de travail comme ça. Et c'est un peu au revoir à tous les acquis sociaux que les anciens ils s'étaient battus pour. Et voilà, ça ne nous laisse pas optimistes quant à la suite.
D'accord, et bien avant de parler et d'entendre l'interview d'une personne de la SNCF, et ben on va s'écouter un petit morceau. C'est un morceau des Tugs, extrait de l'album qui s'appelle Strike, et le morceau s'appelle Strike.
Auditrices, chers auditeurs, souviens-toi, il y a 2 semaines à peu près, les conducteurs et conductrices de train de la SNCF ont menacé de faire grève. Pour ce qui nous concerne, à cette occasion, comme aux autres, Afin de nous informer sur cet événement, on n'avait que la presse écrite et la radio, et c'est dire si on n'avait rien pu comprendre du comment et du pourquoi de cette grève annoncée. Et même, pour tout dire, on commence à vraiment en avoir marre d'entendre Rance Info, de ne parler que de prise d'otages, de galères, etc., etc. C'est pourquoi nous sommes allés voir des camarades une camarade cheminote de notre connaissance pour en savoir un peu plus. Elle nous a présenté des collègues à elle au local CGT Cheminot. Nous avons écouté Christian, Hélène, Jean et Bruno et on a essayé de comprendre ce qui se passe. Bruno, qui est conducteur de train, a accepté d'être enregistré. Nous allons donc passer des extraits de cette conversation qui a eu lieu le 21 novembre dernier. Voilà.
On va revenir sur les motifs de cette grève-là, donc la grève qui a eu lieu en plusieurs étapes en ce mois de novembre 2008. Donc je les avais déjà présentées à la dernière émission, je vais revenir un peu dessus. Donc en gros, et ces grèves ont lieu parce que la direction de la SNCF voulait modifier le RH0077. Voilà, donc la direction de la SNCF... et le gouvernement main dans la main, quoi, vu que la SNCF est sous tutelle du ministère des Transports. Donc ce fameux RH0077, qu'est-ce que c'est ? C'est un document qui réglemente la durée du travail pour tous les personnels de la SNCF, comme une sorte de convention collective spécifique. Donc ça réglemente les temps de repos, les prises de service, le temps de conduite, les amplitudes horaires, le temps de pause minimum, le nombre de week-ends minimum dans l'année, etc. Donc, c'est pas non plus le pied et le Club Med hein, pour les gens de la SNCF, mais c'est le minimum pour leur santé et pour la sécurité de tout le monde. Voilà, en 98, déjà, il y avait eu 10 jours de grève quand même pour négocier son amélioration. Et donc là, le 12 novembre, un décret est tombé qui remettait en cause ce RH0077. Et en fait, donc le but, c'est de déréglementer le travail, parce que tous ces règlements, eh ben, ils font un peu chier les gens qui veulent que la SNCF soit de plus en plus rentable. Donc, pour rendre divers secteurs de la SNCF plus rentables, eh ben, il faut rendre malléables et flexibles les conditions et les horaires de travail. Et donc... mettre en péril la sécurité de tout le monde, et oui. Et voilà, et rendre le travail un peu impossible aux agents SNCF. Donc voilà, là, on va écouter ce que Bruno, donc délégué syndical, nous en a dit un peu plus précisément. Donc là, il va nous détailler les raisons de la grève et comment s'est déroulée cette grève.
Aujourd'hui, la SNCF, pour hypothétiquement... reconquérir ce qu'elle appelle une départ de marché au niveau du trafic du fret, dit en gros, nous, on a besoin d'agents de conduite qui travaillent plus longtemps, qui vont plus loin pour être compétitifs. Sauf que pour nous, les agents de conduite de la SNCF sont déjà largement flexibles, largement utilisés dans des temps de travail sur, par exemple, hein, un agent de conduite, en moyenne, c'est 60 heures d'absence par semaine de son domicile. Quand on raisonne temps de travail, on raisonne souvent temps de conduite, certes, mais on ne voit pas toutes les contraintes liées à l'activité du métier. Et on considère que le métier d'agent de conduite est assez, aujourd'hui suffisamment flexible pour ne pas aller au-delà.
Et donc là, ce serait pire, par exemple. Ce serait encore plus d'heures de travail.
Tout à fait. Par exemple, pour les heures de nuit, à titre d'exemple, on veut passer de 8 heures à 9 heures de conduite de nuit, sans coupure, sans pause. Alors qu'on dit dans le même temps, quand on parle de sécurité routière par exemple, qu'il faut qu'un conducteur, qu'il soit chauffeur routier ou qu'il soit particulier, il faudrait qu'il s'arrête au minimum une fois tous les deux heures. Ouais. Et là, sur des rails avec des transports de personnes, il y a des trains où il y a 900, 1000, 1200 personnes dans les trains. Ouais. Et là, on va faire, entre guillemets, tirer un train à un agent pendant 8-9 heures de nuit. Donc ça suppose, en termes de sécurité... en termes pour la vie et la santé des agents, déjà, première chose, et en termes de sécurité pour les biens et les personnes qu'on transporte, c'est pas tenable pour nous. L'exemple que je viens de citer est démonstratif. Hein. Un agent de conduite aujourd'hui ne peut pas dépasser 8 heures de conduite de nuit, par exemple, et demain, il pourra passer à 9 heures. L'amplitude de la journée de travail, avec une coupure au milieu, un agent qui commence, par exemple, à 8h peut aller aujourd'hui jusqu'à 19h. Demain, il pourra aller jusqu'à 20h.
Et les heures de repos entre deux moments travaillés seraient raccourcies aussi.
Absolument, ouais. Absolument.
Bah oui, on peut reparler peut-être de cette histoire qu'en fait, il y a eu une grève qui a commencé déjà, mm-hmm. enfin, il y a une semaine ou deux.
Il y a une semaine, oui, effectivement, on avait posé le 6 novembre, pour être précis, où on avait déjà appelé, puisque bon, les modifications de la réglementation étaient déjà dans les tuyaux hein, depuis pas mal de semaines. On avait averti déjà la direction de la SNCF qu'on ne laisserait pas faire cette déréglementation. Et c'est pour ça qu'on avait appelé les agents de conduite sur 24 heures à déjà dénoncer ces pratiques. Mmh. Hein. Sachant qu'on s'était, y compris au mois de juin, mis en grève pour les mêmes raisons. Okay. La SNCF avait reculé en son temps et elle a remis le couvert quelques mois après. Okay. Ça n'a pas suffi. Il y a eu une mise en application de ce projet de la direction le 12 novembre, pour être précis. Mmh. Et derrière, eh ben, les organisations syndicales qui avaient appelé à la grève le 6 novembre se sont à nouveau rencontrées et ont tiré les conclusions qu'il fallait remettre, entre guillemets, le couvert pour défendre l'intérêt des agents de conduite.
Et voilà, donc je voulais revenir sur le fait que cette interview là avec Bruno, elle a eu lieu le 21 novembre. Donc il y avait une grève qui était déclarée à partir du 23 novembre au soir. Souvenez-vous, si vous avez essayé de prendre le train, ta. Et bref, elle a donc duré 2-3 jours. Je crois que la CGT finalement n'appelait plus à faire grève. Il y avait aussi des contrôleurs qui étaient en grève, au moins à Saint-Étienne, parce que leur roulement était menacé. Donc pareil, je pense que c'est une question d'horaire, etc. Au bout de 2-3 jours, la SNCF a reculé. Donc les modifications du RH0077 sont passées à la poubelle. Donc après, en fouinant sur internet, tu vois que selon les syndicats, il y a des points de vue très différents sur cette grève. Il y en a qui disent la SNCF n'a pas du tout reculé et on s'est fait avoir, et il y en a qui disent youpi, c'est la victoire, la SNCF a reculé. Et quand t'es pas syndicaliste, et ben tu comprends pas trop pourquoi et comment ils s'embrouillent, mais voilà, en gros la SNCF aurait reculé suite à cette grève.
Et maintenant, on voulait aborder un autre sujet qu'on a abordé avec Bruno aussi, c'est la question de la privatisation. On en a déjà parlé à propos de la Poste et on continue avec la SNCF. Parce qu'en effet, en première vue, on pourrait penser que les raisons de cette grève ne concerneraient que les conducteurs et que nous, on ne serait pas trop dans cette histoire. Mais on a bien vu qu'on est quand même dans un contexte généralisé dans un contexte général de privatisation du ce qu'on appelle par chez nous le service public. Et cette logique, elle se retrouve partout, globalement, comme dirait l'autre. Elle nous touche tous et toutes. D'un côté, on élimine ce qui n'est pas rentable et on en fait supporter le coût à la collectivité, et d'un autre, on rend un maximum d'activités rentables, et ensuite on les donne au secteur privé. Ou dit autrement, en fait, on socialise les dépenses et les pertes, et on privatise les bénéfices. Les conséquences, en fait, les plus immédiates pour les travailleurs et les travailleuses de la SNCF, par exemple, et qu'on les incite, comme on a vu, à être rentables, flexibles, compétitifs. Et pour ce qui leur concerne, eux, quand même, on sait que toute personne qui s'approche des voies ferrées dans les gares, mais surtout entre les gares, qui s'occupe des machines, de l'alimentation électrique, qui conduit une locomotive, toute personne donc qui fait ces activités met potentiellement en danger elle-même ou les autres. Et éviter le plus possible les accidents du travail, ça coûte cher et c'est pas rentable. Et quand on touche aux horaires de travail des conducteurs et des conductrices, on touche à leur niveau de fatigue et au caractère plus ou moins pénible de leur travail. Donc pour arriver à ces fins, la direction et le ministère donc, des Transports s'attaque à des secteurs de la SNCF petit bout par petit bout. Actuellement, on peut dire que la SNCF, la direction veut créer trois types de trains, on va dire, vraiment séparés et plus ou moins indépendants les uns des autres, avec la modification du RH 077 à l'origine de la grève. Elle s'est accompagnée de la création de la famille fret. À l'heure actuelle, en fait, la SNCF est déjà divisée en une partie fret, qui s'occupe donc du transport des marchandises, d'une autre part les TER, et enfin les grandes lignes, c'est-à-dire les TGV, Thalys, etc. Et jusqu'à présent, les conductrices, entre autres, pouvaient passer plus ou moins facilement, sous certaines conditions, l'un à l'autre. Avec la famille fret, en fait, nouvellement créée, elle est composée de volontaires qui sont prêts à se cantonner à une conduite du fret uniquement, avec des horaires en plus plus contraignants, avec moins jours de repos et en échange d'un salaire plus haut. Donc ce processus-là de morcellisation qu'on a vu, qu'il avait existé à la Poste, qui est en train de se poursuivre ailleurs dans notre secteur, a pour conséquence que d'une certaine polyvalence, on se dirige vers une hyper spécialisation. Voilà. Petite musique.
Même pour moi, ça c'était pas clair, la SNCF et pas forcément en voie de privatisation.
Je serais tenté de dire que si, puisque quand on dit qu'on perd des trafics et que ces trafics, du fait que volontairement la SNCF s'en désengage, elle les transfère à des opérateurs privés d'une part ou aux transporteurs routiers d'autre part, c'est ni plus ni moins d'aller vers une filialisation de l'activité du fret. Et ce qu'on craint demain, on a eu quelques expériences où la SNCF avait aussi des projets dans le panier, notamment au niveau du transport de voyageurs, avec la mise en place d'une filiale TGV, déjà à l'époque. Elle l'a abandonné, disons qu'elle a suspendu son projet par rapport à ça. Mais ce qu'on craint, c'est que demain, la SNCF devienne une entreprise, entre guillemets, complètement éclatée, avec une multitude de filiales à l'intérieur, mais qui n'aurait plus du tout de portée de service public. En gros, ce qui est en train de se faire à la SNCF, ça s'est fait passer dans les télécoms. On a vu ce qui reste aujourd'hui de France Télécom. Ça, c'est en train de se passer à l'hôpital, malheureusement, parce qu'au même mot, les mêmes remèdes.
Comment se passe ce découpage, si on peut essayer d'aller dans les détails et tout ça, qu'est-ce qui est séparé, qui était regroupé avant et qu'est-ce qui est...
En gros, avant, il y avait des vases communicants entre les activités, c'est-à-dire que les trains qui rapportaient entre guillemets de l'argent servaient à financer les trains qui en rapportaient moins. Encore, il est bien évident qu'un train de voyageurs qui est à 22h le soir, il est moins rempli que qu'un train le matin à 5h entre Saint-Étienne et Lyon, par exemple. C'est bien évident. Et justement, c'est les trains qui entre guillemets d'un point de vue financier était rentable et qui servait à financer les autres. Mais c'est ça, le service public, c'est précisément ça. Et aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est que précisément, la SNCF est en train de découper par pan. Alors vous posiez la question, il y a d'un côté le TER, Transport Express Régional des Voyageurs, qui n'est même plus sous la tutelle du gouvernement, mais qui l'aide des collectivités territoriales, en l'occurrence le conseil régional, qui gère les trafics. Si demain, on a un conseil régional qui dit nous, on ne veut plus du TER, on va voir ailleurs, c'est fini. Je veux dire, les décisions, elles ne se prennent plus à l'échelon d'État. Donc, virgule là. C'est ce qui est valable pour le TER, c'est valable pour le fret, et c'est valable aussi pour les grandes lignes. On a vu, dernier service, l'année dernière, un certain nombre de TGV qui ont été supprimés du jour au lendemain, parce que l'ancienne SNCF les considérait comme pas assez remplis, et on les a supprimés. C'est y compris vrai aussi pour ce qu'on appelle les trains transversaux, c'est-à-dire ceux qui traversent en croisée le territoire de Nice de la Côte d'Azur à la Bretagne dans un sens, et puis de l'Alsace à l'Aquitaine dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle les transversales. Et la SNCF, depuis des années, s'est complètement désagrégée de ces trafics, ce qui fait que les territoires qui n'ont pas accès au TGV, et ça existe encore, ne sont plus desservis par le ferroviaire. On a des départements, pas loin de chez nous, comme l'Ardèche, où il n'y a pas un seul train qui circule. Quelqu'un qui habite au Bonnat, pour prendre le train, c'est un exercice de style quand même. je serais tenté de dire que, et je le répète, hein, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais la SNCF, on ne donne plus à la SNCF la vocation qu'elle mérite d'avoir. Oui. Celle qui faisait que dans les, il y a 50, 60 ans en arrière, quand on prenait la carte du réseau français, c'était une toile d'araignée, hein, le réseau ferroviaire, hein, et qu'il y en avait de partout. Il n'y avait pas un seul. D'ailleurs, on le voit, il y a encore des empreintes de l'histoire où on voit tout un tas de petits villages, de petites villes qui ont leur gare. Mmh. Aujourd'hui, quand on voit le réseau, évidemment, il y a eu des centaines de milliers de kilomètres de voies qui ont été arrachées depuis, qu'on voit réapparaître de temps en temps. Là aussi, hein, quand on parle d'argent public, il y a beaucoup de choses à dire en la matière. Pas très loin de chez nous, on a un embranchement particulier, une voie ferrée qui était censée, ça tombe bien, on parle du fret, qui était censée desservir à côté de Saint-Romain-le-Puy, c'est une entreprise qui s'appelle Solovert, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, il y a un embranchement qui était tout neuf, qui a coûté la bagatelle à vous comme à moi, hein, à nos impôts, je veux dire, quand j'allais dire aux contribuables, mais oui, c'est à tout le monde, qui a coûté la bagatelle de 800 millions d'euros quand même. Et qui ne sert à rien. Tout ça parce que la SNCF a dit qu'elle ne voulait plus, que pour elle, ce client-là, ce chargeur-là, n'était pas pertinent en matière ferroviaire. Voilà, je dirais que là, c'est un exemple flagrant de la politique dévastatrice qui est en train de se mettre en place au niveau du fret. Et là, c'est vraiment très parlant, 800 millions d'euros pour rien, aux frais du contribuable. Et à côté de ça, on va nous dire, messieurs les conducteurs, il faut travailler une heure plus parce que bon, il faut être compétitif. Il y a un moment donné où il y a des discours qui passent plus. Quoi.
Vous êtes toujours sur Radio Duo. Nous sommes pas dans les années 80, mais en 2008. Et nous parlons toujours donc avec les cheminotes et les cheminots et de leur lutte. J'ai perdu mon petit truc. De fil en aiguille, donc notre conversation nous a mené à parler de la grève en général avec Bruno. Et donc voilà ce que ça a pu donner. Ça a été vite. Hein.
Bah, ouais, en gros, on avait l'impression que la grève, de manière générale, était de plus en plus délégitimée. Alors que ça reste quand même un moyen de lutte important. Donc c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de lui parler vraiment de la grève en soi, quoi. Comment ça marche, est-ce qu'on leur met des bâtons dans les roues, etc.
Alors moi, c'est peut-être un peu bête, mais je me suis toujours demandé, quand il y a une grève, comment, pourquoi il n'y avait pas plus d'informations dans les gares. Je sais pas, j'imaginais qu'il y aurait des piquets de grève devant la gare pour discuter.
Alors, avant chaque grève, on distribue des tracts aux usagers. On essaye de passer entre... Bon, comme une gare comme Château-Creux, c'est des pics à 16 000 personnes par jour quand même. Ouais. On essaye de distribuer 5 000, 6 000 tracts pour expliquer les raisons des grèves. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas à armes égales entre nos tracts qu'on distribue 48 heures avant le début d'une grève et le tapage médiatique qui se fait de manière très raccourcie, hein, puisque s'articule uniquement au nombre de trains qui vont être supprimés, aux prises d'otages. C'est un terme qu'on réfute totalement parce que la définition du... Pour moi, c'est associé au terrorisme, la prise d'otage. Il ne me semble pas, jusqu'à preuve du contraire, qu'un gréviste soit un terroriste. Mais pour autant, on n'est pas en capacité non plus, malheureusement, d'informer comme on le souhaiterait, quoi. Alors c'est vrai que, on prend la mesure à chaque fois. Ça ne nous fait pas plaisir à chaque fois. Effectivement, il y a des gens qui vont bosser, y compris des gens qui sont de notre propre organisation syndicale. Des fois, ça fait des bois en interne. Ouais. Effectivement, on le sait. Hein, on a des enfants, on a des familles. On vit pas. C'est souvent ce qu'on essaye d'expliquer aux gens quand on les voit. On vit pas en vase clos, en microcosme, uniquement cheminot. On n'est pas dans une bulle autistique où il y aurait que nous sur Terre. Enfin bref. Et puis, le deuxième aspect, c'est que contrairement à ce qui se dit aussi dans certains médias qui s'écrit, on n'est pas payé sur des jours de rêve. Donc, on y laisse des plumes quand même. Donc, ça nous fait pas forcément plaisir.
Et puis, la grève, ça reste un des meilleur moyen de faire pression aussi, quoi.
Tout à fait. On n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. Il y a quelques années, alors il y a pas mal d'usagers, quand on en discute avec eux, ils nous poussent un petit peu, ils nous disent vous devriez faire la grève du zèle, la grève de la, ce qui est communément appelé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la grève de la pince chez les contrôleurs. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui a été fait il y a quelques années et qui a été déclaré complètement illégal.
Ouais.
Voilà. Donc bon, ce qui fait qu'à l'époque, il y a eu des sanctions individuelles, puisque là, ça ne repose plus non. Une grève du zèle de ce type-là, ça repose plus sur l'action collective, mais sur l'action individuelle. C'est-à-dire que c'est l'agent seul dans son train qui va prendre la décision de faire de la grève du zèle ou pas. Et ça, bon, c'est quelque chose qui a été condamné fortement. Il y a eu des sanctions. C'est la raison pour laquelle on n'appelle plus à ce genre d'exercice. Malheureusement, on n'a pas trouvé autre chose pour se faire entendre que de cesser le travail. Bon, et puis c'est pas faute de prévenir avant, hein. Comme je le disais, pour le motif qui nous occupe aujourd'hui, il y a des mois et des mois de discussions, des mois et des mois de négociations. Mais bon, arrive un moment où la négociation aussi a ses limites. Et
voilà, donc quand la négociation a ses limites, on fait grève. Et c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant, quand il y a des grèves, on parle plus de comment ça fait chier le monde que de pourquoi les gens font grève et ont sûrement des bonnes raisons de la faire. Donc je voulais conclure par une citation de Vincent Cassel qui disait « Pester contre la grève, c'est se tirer une balle dans le pied ». Voilà. Parce que si vous n'êtes pas content qu'il y ait la grève, un jour, peut-être votre train coûtera 15 fois plus cher ou votre gare sera plus desservie parce que ce ne sera pas rentable, etc., etc. Donc justement, je voulais en venir, pour finir, à une actualité relativement locale. Parce qu'en fait, là, la CGT Cheminot a lancé une petite mobilisation donc, qui, pour l'instant, passe par des tracts et des pétitions. En gros, dans les gares de Rive-de-Gier et de Saint-Chamond, donc entre Saint-Étienne et Lyon, la direction de la SNCF, pour augmenter sa productivité, a décidé de supprimer les postes d'agents de circulation. Donc les agents de circulation, c'est les techniciens qui s'occupent des trains, qui gèrent à peu près plein de choses d'importantes, voilà, à peu près tout ce qui est technique sur la circulation des trains. Et ça voudrait dire, en fait, que les seuls techniciens entre Saint-Étienne et Givors, ils seraient à Saint-Étienne et à Givors. Il n'y en aurait plus à Rive-de-Gier et Saint-Chamond. Donc, le service rendu au public, il va être moins bon. La sécurité, ce sera pareil. Vous aurez plus de sympathiques petits bonhommes de la SNCF pour vous expliquer pourquoi il y a une panne si vous êtes à Rive-de-Gier ou à Saint-Chamond, ou pourquoi il y a un train qui n'arrive pas ou qui arrive en retard, etc. Et en plus, le travail des agents de circulation à Saint-Étienne et Rive-de-Gier va devenir vraiment énorme et hyper stressant. Voilà. Et ce que j'ai trouvé bien, moi, dans ce tract de la CGT Cheminot de Saint-Étienne, c'est que... Enfin, de Saint-Étienne-Loire, c'est qu'ils disent « ça nous concerne tous ». Mobilisons-nous ensemble, et c'est pour ça qu'ils font signer une pétition. Donc, je sais pas, si vous voulez la signer, adressez-vous à la CGT Cheminot. Voilà, ou peut-être vous la trouverez dans les gares. Voilà.
Très bien. Alors, on va écouter maintenant un morceau de Dominique Grange qui s'appelle « Grève illimitée ». À préciser que donc vous êtes toujours à l'écoute du numéro 0 sur Radio Dio et que on est bien ravis que cette émission vous plaise.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère n'a que ses poings nus. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui qui font la révolution. La révolution, quand elle unit des camarades, la colère, quand elle unit des camarades, la colère monte en barricade. La Sorbonne libre, censier l'Odéon, partout l'amitié, la Sorbonne libre, ils nous ont chassés à coups de matraque, ils nous ont volé la Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère, quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat, ce n'est qu'un début. Nous avons le temps d'aller en prison, nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat, ce n'est qu'un début.
Continuons le combat. Continuons le combat.
Oui, mais on n'a pas le temps d'aller en prison. Hein.
Ah non.
Et voilà. Donc, cette émission du numéro 0 touche bientôt à sa fin. Donc, on va passer à quelques brèves et annonces. Alors, tout d'abord, le 10 décembre 2008, à 19h, à l'Entrepôt Café, donc c'est Place Jules-Guesde à Saint-Étienne, il y aura une soirée de soutien aux inculpés du 11 novembre. Donc, c'est ces gens-là qui l'on fait passer pour des anarcho-autonomes, des terroristes, et qui sont accusés d'avoir saboté des trains, là, vous en avez entendu parler, j'imagine. On vous en parlait dans la dernière émission. Voilà, donc il y aura des lectures d'un livre qui s'appelle L'insurrection qui vient, de la musique de Super Jean-François Plomb, une projection de L'écœurement, alors la révolution. Voilà, donc ça c'est le 10 décembre à 19h à l'entrepôt, et l'argent ira en soutien aux inculpés, l'argent donné pour la sangria, voilà.
Après, je sais pas si vous avez entendu parler des barazites. Les barazites, c'est les 10, 20, 30 de chaque mois, de 18h à 22h. Les barazites, c'est un bar, un lieu de rencontre, une info kiosque, une bibliothèque, une friperie gratuite. En gros, les barazites, c'est l'occasion de boire, de discuter, de se rencontrer, les 10, 20, 30 de chaque mois. Ça se passe à la SOF. La SOF, c'est un espace squatté qui est situé au 14 rue François-Albert au Soleil. Alors voilà, moi je pense que ça peut être un chouette point de rendez-vous. Alors rendez-vous au barazites, les 10, 20, 30 de chaque mois, de 18h à 22h.
On continue avec une petite brève sur les ravages de la législation antiterroriste à travers deux exemples. Le premier, c'est à Lyon, où le 19 novembre dernier donc, a eu lieu deux perquisitions dans deux associations de défense des animaux, les militants des droits des animaux. La première association s'appelle Dignité Animale et la deuxième Le Glaive. Personne n'en avait entendu parler jusqu'à présent. Mais les flics, les gendarmes ont décidé de les perquisitionner. Ils ont saisi tout le matériel informatique. Ils en ont arrêté, enfin, mis en garde à vue trois personnes pour finalement les relâcher parce que finalement, ils n'avaient rien trouvé contre elles. Ça nous rappelle des choses. Et donc c'était dans le cadre d'une enquête qui en lien avec un vrai sabotage qui a eu lieu à Rive-de-Gier en juin dernier, le 28 exactement, dans une entreprise qui s'appelle Charles River, qui fabriquait des animaux de laboratoire et qui a vu ses locaux administratifs et certaines de ses véhicules utilitaires partir en fumée. Qui a été incendiée, quoi. Une action qui avait été revendiquée par l'ALF. Et l'ALF, c'est Animal Liberation Front, un groupe d'action de défense des animaux qui, par divers moyens, la plupart du temps, genre incendie, sabotage, voire libération directement, lutte contre. Pour l'égalité animale. La gendarmerie cherche ces gens de l'ALF et elle se dirige vers des gens qui ont à peu près rien à voir avec ça. Voilà, ils tâtonnent, ils ont tous les droits de le faire, et voilà. Et
c'est le cas. En ce moment, quand même, la police, elle n'arrête pas d'arrêter des innocents, quoi.
Et on peut faire ce lien avec ce qui se passe aussi en Autriche, où une association qui s'appelle la VGT, qui est, elle, par contre, beaucoup très, très représentée en Autriche, il y a plusieurs dizaines de milliers de membres, qui a fait tout un tas d'actions depuis plusieurs années contre la fourrure, la viande en batterie, etc. Et qui a vu certains de ses militants arrêtés, une dizaine exactement pour l'instant. Pareil parce qu'il y avait des actions de l'ALF, etc. Donc ils se tournent vers des associations légales avec une activité, comment dire, voilà, pour essayer de... Donc comme c'est dans le cadre d'une législation antiterroriste, toujours, ils ont tous les droits. Et notamment, là, on peut noter que la Cour suprême d'Autriche a confirmé un jugement de mise en détention provisoire de 10 personnes avec des arguments de fous, par exemple. Elle dit que des échanges de courriels sur des listes de discussion fermées, rien que ça, ça suffit à fournir une infrastructure à une organisation criminelle. Alors voilà, vous sentez peut-être visé, mais c'est normal. Que crypter ces messages électroniques et utiliser des téléphones anonymes indique une intention criminelle. Tous les banquiers font ça, mais eux, ils ne seront pas inquiétés de toute façon. Que menacer une entreprise par une campagne légale, même de façon polie, alors que des délits ont été commis lors d'autres campagnes contre d'autres entreprises, constitue un recours au chantage. Ça va super loin. Et que le fait qu'une entreprise cesse de vendre de la fourrure après avoir été démarchée par des groupes de droits des animaux est le signe d'une activité criminelle. Car aucune entreprise n'aurait pris une telle décision sans se sentir l'objet d'une intimidation criminelle, c'est-à-dire d'avoir été terrorisée. Donc voilà, on est dans la merde. De toute façon, dès qu'on va militer, on va se le prendre l'antiterrorisme dans la gueule. Et voilà. Donc on va en reparler, je pense. Et il est 13h, est-ce qu'on arrête là ?
Eh ben, y a pas une manif ce soir ?
Ouais, ça bouge quand même dans les lycées, et il y a une manif effectivement. Alors à Saint-Étienne, on n'est pas au courant, s'il y a une manif ou pas. En tout cas, on sait qu'à Lyon, ce soir à 18h ou 18h30, il y a un rassemblement prévu, place des Terreaux à Lyon, et c'est les lycéens et lycéennes qui appellent à manifester. Et voilà. C'est pour encore la réforme de Darcos, quoi, ministre de l'Éducation.
Et voilà, et un dernier truc à annoncer, c'est que le lundi 8 décembre, et bah, pendant qu'il y a plein de gens qui font les illuminations, youpi, ouh, et bah, il y a une manif en soutien aux prisonniers à Lyon, et puis aussi pour faire la lumière sur les morts suspectes en détention. Donc c'est le 8 décembre, c'est rendez-vous à 17h30 devant le tribunal qui est rue Servian, je crois.
Dans le 3e arrondissement, ouais.
Voilà, et puis après ça ira à la prison et ça fera le tour de la prison pour faire coucou aux prisonniers. Et après il y aura une bouffe sympathique et conviviale. Ah oui, et alors sinon, vous pouvez écouter les émissions du numéro 0 sur le site du numéro 0. Elles sont téléchargeables et écoutables en ligne. Et puis le numéro 0 est rediffusé à 17h normalement, le même jour. Et aujourd'hui, ce sera plutôt à 16h, parce qu'après, il y a un autre truc.
Et n'hésitez pas à publier sur le site numéro 0, comme ça, après, ouais. Nous, ça nous fait de l'info.
Ouais.
Au revoir. Ciao.
Salut. Eh ben, on va se quitter avec un morceau des Specials. Et ça vient, c'est tiré de l'album Too Much Too Young. Et le morceau s'appelle
Do Nothing, comme par hasard.
Salut.